Radio Kapi.
Début aujourd'hui de la publication des résultats de l'examen d'État 2021 par les sociétés de téléphonie mobile. Le ministre de l'EPST leur a remis hier les supports numériques contenant ces résultats. La suppression pure et simple de la taxe RAM et la démission du ministre des PTNTIC, c'est la conclusion des députés nationaux hier après l'audition de ce membre du gouvernement au sujet de cette taxe qui fait beaucoup parler d'elle depuis son instauration. Impliquer les magistrats dans la lutte contre la fraude et la corruption, c'est l'objectif du séminaire clôturé mardi à Lubumbashi par la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs miniers. Eli Kadima, coordonnateur intérimaire de la POM, est notre invité ce matin. Bonjour à tous. Les résultats de l'examen d'État édition 2021 pour toutes les provinces seront disponibles à partir de ce jeudi après la cérémonie de remise officielle des CD des résultats aux opérateurs des réseaux téléphoniques par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Cette information a été livrée hier mercredi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique sur ses comptes Twitter et Facebook. Entre-temps, toujours hier mercredi, le ministre de l'EPST a publié la liste des meilleurs lauréats de la province du Haut-Katanga. C'est l'élève Angie Kulenduka Muswamba qui vient en tête avec 89% en commercial et gestion. Alain Rung nous parle des lauréats des autres options de la province du Haut-Katanga.
Option latin philosophie, mademoiselle Ilunga Banze Angèle du complexe scolaire Galaxy, 83%. Option mathématiques physique, mademoiselle Mpuchila Leila, également du complexe scolaire Galaxy, 84%. Option chimie-biologie, mademoiselle Omba Mutombe Déborah de l'Institut Mungoti, 87%. Option sciences, l'élève Kabash Chiouk Gabriel de l'Institut Imara, 75%. Option pédagogie générale, Kabang Mbouya Sylvain du complexe scolaire Galaxy, 84%. Ex-aequo avec mademoiselle Asma Youssouf du complexe scolaire Les Aiglons, 84%. Le ministère de l'EPST affirme que le retard avec lequel ces résultats sont publiés se justifie par l'effet croissant des candidats finalistes qui a pesé dans la correction des items. Et le ministre l'avait prévenu le 2 septembre 2021, lors de son passage à la grande édition du journal télévisé sur la RTNC, une date qui a coïncidé avec le quatrième et dernier jour de ces épreuves, affirme le ministère. Pour rappel, c'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui avait lancé la session ordinaire de l'examen d'État 2021 le 30 août dans la province du Kwango, dans la ville de Kenge. Près de 800 000 finalistes ont pris part à ces épreuves en RDC et dans certains pays voisins.
Début hier mercredi de l'examen de la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibasa sur la taxe RAM. La plénière s'est déroulée sous tension avec plusieurs épisodes d'incidents. Dans son intervention, le ministre de PTNTIC affirme que cette taxe a déjà collecté plus de 25 millions de dollars et grâce aux fonds collectés, certaines universités bénéficient d'un Wi-Fi gratuit et plus de 500 téléphones volés ont été retrouvés. Dans le débat, tous les députés ayant pris la parole ont exigé la suppression pure et simple de cette taxe qualifiée de simple escroquerie. Certains ont même demandé la démission du ministre Augustin Kibasa. Michel Kifindangoy nous raconte.
C'est dans cette ambiance d'agitation que les députés ont exigé non seulement la suppression sans condition de la taxe RAM, mais aussi la démission du ministre des PTNTIC, Hubert Furukuta.
Nous exigeons le retrait immédiat de la taxe RAM, qui est déjà une torture en plus d'État contre le peuple. Nous prions le bureau de l'Assemblée nationale de commanditer une mission urgente d'audit sans complaisance sur la destination de l'argent du RAM. Messieurs les ministres, ayez prié d'exprimer sa considération vis-à-vis du peuple par sa démission immédiate.
Pour la quasi-totalité des députés nationaux, cette taxe est une véritable escroquerie de l'épargne des Congolais et s'oppose à l'idéologie du peuple d'abord. Léon Mondolé.
Si nous suivons la grogne de notre peuple, cette taxe est antisociale, anti-peuple. Que les ministres prennent la hauteur de retirer cette taxe qu'il a créée sans avis de l'Assemblée nationale et sans référence à aucun texte.
Les débats ayant été suspendus par motion de Jean Baudouin Maillot, le ministre Augustin Kibasa, qui s'est dit choqué d'être traité d'escroc, a sollicité 48 heures pour sa réplique.
À la Chambre haute du Parlement, reprise toujours hier mercredi de l'évaluation de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord-Kivu, une semaine après la suppression de cette évaluation par le président du Sénat suite aux contradictions observées entre les membres du gouvernement. Les sénateurs insistent sur la problématique de l'efficacité des opérations sur terrain. Après plusieurs questions adressées au ministre sur l'évaluation de l'état de siège, le Sénat accorde 48 heures au gouvernement. Encore une fois, le point de Michel Kifindangoy.
Sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo, le Sénat se dit déterminé à accompagner le président de la République dans les efforts de restauration de la paix dans la partie est de la RDC, une priorité de son mandat. Modeste Bahati Lukwebo.
Cette séance a pour objet d'échanger avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons amplement informés sur la situation réelle qui prévaut dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri et que nous puissions par nos recommandations contribuer à la victoire des forces armées de sécurité afin que la paix revienne dans l'est de notre pays. Nous allons en débattre à huit jours. Lorsque nous aurons terminé, nous allons alors rappeler la presse pour poursuivre notre ordre du jour.
Après avoir enregistré différentes préoccupations des sénateurs, la délégation gouvernementale composée des ministres de l'Intérieur, de la Justice, du Budget, de l'administrateur général de l'ANR, du chef d'état-major des FARDC, ainsi que du commissaire général de la PNC, a sollicité 48 heures pour revenir avec des réponses précises.
Bilan à mi-parcours de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, le Bureau conjoint des Nations Unies sur droits de l'homme note des améliorations sur le plan sécuritaire, mais fait part également des violations et atteintes de droits de l'homme attribuées aux forces de sécurité. Le directeur de cet organisme de l'ONU l'a souligné hier mercredi au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa et en visioconférence à Goma, à Beni et Butembo. Un extrait des propos d'Abdulaziz Choi, choisi par Nourimi Sengakalala.
L'état de siège a permis de mettre sur pied un cadre permanent permettant à l'État d'agir contre les groupes armés et à favoriser un mouvement de reddition de certains combattants. Il a également permis la sécurisation de certains axes routiers et la libération de certaines localités de la présence des groupes armés. Toutefois, malgré l'observation de ces améliorations que j'ai citées et qui concernent la situation sécuritaire dans ces provinces, des défis en matière de protection des civils demeurent. Les violations et atteintes aux droits de l'homme documentées dans les provinces sous état de siège n'ont pas diminué de façon significative et de nombreux défis continuent de se poser en ce qui concerne notamment les violations commises par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de leurs opérations.
Au cours de la même conférence de presse, le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, a pour sa part annoncé la présentation le 5 octobre prochain au Conseil de sécurité par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la RDC, un rapport sur lequel est inclus le plan de transition conjoint gouvernement-MONUSCO, lequel définit les priorités à atteindre entre 2021 et 2024, dont sera tributaire un retrait progressif, responsable et durable de la mission. Justice à présent, un seul juge au tribunal de paix d'Idiofa, au lieu de trois pour siéger et trancher les affaires pénales. Cette situation témoigne d'un dysfonctionnement de la justice dans ce territoire du Kwilu, ce qui n'arrange pas la nouvelle société civile congolaise locale. Son coordonnateur Arsène Kachama demande aux autorités judiciaires d'affecter d'autres juges afin d'améliorer la situation. À Bandundouville, Irène Boma.
Cette carence des juges qui se fait sentir au tribunal de paix d'Idiofa bloque le bon fonctionnement de cette entité judiciaire, surtout en matière pénale. Et cela n'est pas sans conséquence sur la population, a souligné Arsène Kachama, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de ce territoire.
Les affaires pénales ne fonctionnent pas du tout. Les affaires coutumières, oui, mais avec quelle lenteur? Pour trancher, ça doit prendre des années. Parfois on tranche, parfois on ne tranche pas. Les gens viennent pour un conflit foncier. Quand ils sont venus à la justice, au niveau du tribunal de paix, mais pour trancher des problèmes, et vous apprendrez demain. La bagarre en forêt, il y a des morts d'hommes, il y a ceci, il y a cela.
Il appelle les conseils supérieurs de la magistrature à pouvoir affecter d'autres juges à Idjofa afin que cette situation soit décantée.
Nous sommes en train de plaider, si possible, que ces autorités judiciaires puissent envoyer des juges à Idjofa.
Signalons que cette insuffisance des juges et des magistrats est aussi observée dans plusieurs autres institutions judiciaires de la province du Kwilu, a-t-on appris des sources dignes de foi. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
À Kalemie, dans la province du Tanganyika, la marche de la Mouka d'hier mercredi a été dispersée par la police. Le coordonnateur du parti politique Nouvel Élan Tanganyika, membre de la plateforme La Mouka, dresse le bilan de la marche. C'est entre autres l'arrestation de 4 de leurs militants, puis libérés du cachot de l'ANR et la perte des biens des manifestants. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de Nouvel Élan, Maurice Kasongo à Kasongo, au micro de François-Xavier Mibé.
Une lettre a été déposée aux autorités en place. Ils nous ont retourné la réponse avec un rare retard hier soir qui a été négatif. Vers la fin de la lettre et réponse, on a remarqué quelque part que le maire nous a dit d'utiliser d'autres moyens pour nous exprimer. C'est ce qui a fait que l'on puisse nous choisir l'option de venir déposer les mémos à la MONUSCO. Chemin faisant à quelques mètres de la MONUSCO, les policiers sont intervenus. Pas une façon de nous sécuriser, mais plutôt une façon de nous brutaliser. Et on a été arrêtés, 4 personnes, commençant par moi-même le coordonnateur. Nous sommes retrouvés au cachot de l'ANR. Depuis 9h, ils nous ont relâchés vers 17h. Ils ont réussi à disperser le militant. Qu'on a perdu même de biens matériels. On a été victime de coups et blessures. Nous sommes en train de condamner avec toute de la dernière énergie le comportement qu'affiche la police. Ils ne viennent pas sécuriser les manifestants. Ils viennent avec l'objectif de pouvoir maltraiter les militants.
Situation de Congolais qui reviennent de l'Angola par la frontière de Kamako. Le gouverneur du Kasaï révèle avoir dépêché sur place le ministre provincial des Affaires humanitaires pour s'enquérir des conditions humanitaires. Adieudonné Piémé indique que les dernières données qu'il détient fait état de plus de 8000 Congolais enregistrés à ce jour. Soulignant attendre le rapport qui lui permettra d'évaluer la situation, il précise que ses compatriotes peuvent se réinstaller dans le pays et vivre en paix sans être inquiétés. Il a été joint au téléphone par François Kadima.
Notre travail de consolidation de la paix, de construction de la paix, vient comme une forme d'huile dans le moteur pour faire en sorte que des actions humanitaires et des actions de développement viennent travailler avec des possibilités de maîtrise de contexte pour qu'ils n'aggravent plus les conflits dans le milieu, mais interviennent de manière sensible au conflit tout en tenant compte des sensibilités locales, de telle sorte que les actions humanitaires et des actions de développement viennent consolider les efforts de paix et de cohésion sociale dans le milieu. Ça signifie qu'il s'agit d'une approche qui vise à amplifier nos efforts ensemble, à réduire des dispersions, à réduire des duplications, mais à s'inscrire dans une logique de complémentarité, de faire en sorte que des conflits qui sont des conflits coutumiers ou des conflits de limite, des conflits fonciers ne viennent pas miner des actions de développement, de l'agriculture ou de sécurité alimentaire dans lesquelles nous travaillons.
Signalons que ce mouvement des Congolais provenant de l'Angola s'observe depuis les débuts de ce mois de septembre.
Actualité internationale.
Les affrontements entre détenus qui ont éclaté mardi dans une prison du sud-ouest de l'Équateur ont fait plus de 100 morts, ont indiqué mercredi les services pénitentiaires du pays, SNAI. Plus de 100 détenus ont été tués et 52 blessés durant les violences, a annoncé le SNAI sur son compte Twitter. Un précédent bilan faisait état de 30 prisonniers tués dans ces heurts entre gangs rivaux. En Tunisie, près de 10 semaines après s'être arrogé de pouvoirs exceptionnels, le président tunisien Kais Saied a nommé hier mercredi Najla Boudène comme chef du gouvernement. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste.
L'invité.
Le séminaire organisé par la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur minier pomme en sigle a tiré ses rideaux mardi dernier à Lubumbashi. Placé sous le thème « Formation des magistrats sur les notions approfondies de litier et identification des cas », cette rencontre était animée par les experts du Centre Carter. Pour les initiateurs de ces séminaires, l'objectif visé est d'impliquer les magistrats dans la lutte contre la fraude et la corruption. Eli Kadima, le coordonnateur intérimaire de la POM dans le Haut-Katanga, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Maître Ly, bonjour.
Oui, bonjour.
Dites-nous, pourquoi avoir choisi les magistrats pour ce séminaire?
Ce sont les magistrats qui doivent réprimer les infractions liées au détournement, à la fraude, à la corruption et tout. C'est pourquoi nous avons choisi les magistrats pour les outiller à la lecture du rapport ITIE, parce que c'est un rapport qui nous donne des cas, des irrégularités ou des cas de détournement, de deniers publics. Nous voyons le travail que l'IGF fait et il amène à la justice. Et nous avons voulu aussi alimenter la justice avec des cas.
Mais concrètement, ça va se faire de quelle manière?
Le procureur peut, à la lecture d'un rapport de l'ITIE, se saisir de certains cas. Par exemple, il y a la redevance qui était attendue au niveau des ETD, 15%. On sent que sur les 15%, il n'y a que peut-être 8% qui ont été donnés. Mais le reste là, on n'explique pas ces parties où, pourquoi ça n'a pas été donné. Je crois que le procureur peut se saisir d'un cas pareil et ouvrir une information, demander un peu à ces entreprises là qui devaient payer pour qu'ils puissent s'expliquer.
Il n'y a que les entreprises minières qui sont visées ou il y a d'autres structures aussi?
Le principe dans le rapport ITIE, c'est que vous publiez ce que vous avez payé. Quand les entreprises payent, ils payent dans les régies de l'État. C'est-à-dire, quand une entreprise paye, elle déclare les chiffres qu'elle a payés. Par exemple, pour l'IBP, j'ai payé autant. Et la régie qui a reçu l'argent de l'entreprise publie aussi que j'ai reçu de telle entreprise autant. On va maintenant concilier les deux chiffres pour voir s'il y a concordance ou pas. Au cas où il y a un écart, on doit chercher l'écart provient d'où. Mais il arrive des fois qu'il y a un écart, on sait que c'est l'entreprise peut-être qui n'a pas payé. Mais le rapport sort avec cette irrégularité-là. Le procureur peut poursuivre l'entreprise-là pour lui demander pourquoi il n'a pas payé. Et des fois aussi, ça peut être la régie qui n'a pas comptabilisé tout ce que l'entreprise a donné. C'est comme ça qu'on est là en présence d'un cas de fraude. Le magistrat peut se saisir des cas et poursuivre.
Et qu'en est-il de la redevance minière que reçoivent les ETD?
Au niveau de la redevance, en tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons même fait cet atelier. La redevance, on avait lutté pour que cette redevance soit perçue au niveau de la base. Parce que dans le temps, l'argent allait à Kinshasa, il devait y avoir rétrocession. Et vu que la rétrocession ne venait pas, on a dit non, il faut qu'on change dans le code pour que l'argent puisse être versé directement au niveau de l'ETD. Mais depuis que cet argent est versé au niveau de l'ETD, on sent qu'il y a trop de problèmes. Le premier problème, c'est que les entreprises, sur le montant attendu et le montant qu'ils ont versé, il y a un grand écart. Le montant versé est vraiment en dessous, même de 50% du montant attendu. Là, c'est un problème qu'il faut éclaircir. Et au niveau même de la gestion de cet argent-là, on sent qu'il y a de sérieux problèmes. Les infrastructures qu'on est en train d'ériger ne reflètent pas l'argent qu'ils ont reçu. Tous ceux-là qui sont au-dessus, à Kinshasa et un peu partout, ont les yeux braqués toujours sur l'argent des ETD. Alors que la province reçoit 25%. On ne voit pas qu'est-ce qu'on fait de ces 25%. Et ce qui est encore bizarre au niveau de la province, le code dit que l'argent de la redevance, c'est exclusivement pour les infrastructures. Mais on sent qu'au niveau de la province, cet argent-là tombe dans la marmite commune. On ne sait pas qu'est-ce qui est redevance, qu'est-ce qui est autre taxe.
Que faire dans ce cas?
Nous avons beaucoup travaillé avec des ETD pour leur donner d'abord des formations et de l'information pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Comme on a déjà informé, on a déjà formé, il faut maintenant que les instances qui doivent contrôler, les instances qui doivent réprimer le détournement et la corruption puissent aussi s'impliquer. C'est pourquoi nous avons fait appel au parquet pour qu'ils puissent commencer à se saisir des cas qui sont vraiment emblématiques pour les poursuivre et voir comment on peut décourager ceux-là qui sont contre le développement des communautés. Nous sommes vraiment contents des magistrats parce que on a vu même le procureur général venir, on a vu même le procureur de la République venir. Vraiment, tous les magistrats sont là. Vraiment, ça nous a fait plaisir. On aimerait les outiller de manière à ce qu'ils puissent commencer à faire une lecture professionnelle des rapports ITIE et ils puissent commencer à se saisir des cas qui sont des anomalies qui existent dans les rapports. Mais la cible qui était visée en premier lieu, c'était les députés provinciaux parce qu'ils devaient se saisir de ces cas-là et faire des interpellations, des questions orales et tout ça.
Élie Kadima, je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.